Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Convaincu que Jésus représente une espérance dans ce monde, quelles que soient les circonstances de nos vies, nous parlons des problèmes d'actualité et des réponses que la Bible peut y apporter.
Tout à l'heure, Jean-Yves racontera une histoire courte répondant à la question « Comment notre Dieu qui est juste peut-il pardonner aux hommes leurs péchés sans compromettre sa propre justice ?» Mais tout d'abord, Yann et Robert vont à nouveau nous parler d'Abraham.
Nous saluons Robert de nouveau. Nous continuons à parcourir ensemble la vie d'Abraham. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons vu qu'à un moment donné, au lieu de chercher la volonté de Dieu, Abraham fit un choix irréfléchi.
Oui, Abraham et Saraï voulaient à tout prix un enfant, et au lieu d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu, Abraham eut un enfant par sa servante Agar. Cette pratique était permise par la tradition de l'époque, mais représentait quand même un adultère devant Dieu. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur cet incident pour en discuter d'autres éléments.
Lesquels précisément ?
C'est le rappel que toutes nos décisions, toutes nos actions auront des conséquences, soit en bien, soit en mal. C'est bien pour cela que nous devons chercher la sagesse de Dieu. L'incident de la vie d'Abraham que nous venons d'évoquer en est un exemple.
Oui, effectivement. Abraham connut sa servante Agar afin d'avoir un enfant. Mais quelle est la suite des événements ?
La servante Agar s'est trouvée enceinte et c'est là que commencent les sérieux ennuis, desquels Abraham aurait dû se méfier par avance. Lisez, s'il vous plaît, Yann, Genèse chapitre 16, du verset 4 au verset 6.
Abraham alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarde sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est dans ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle.
Nous constatons donc que cette solution d'avoir un enfant par Agar, apparemment porteuse d'espoir, ne fait en réalité qu'apporter la zizanie. Saraï et sa servante ne s'entendent plus. Saraï en veut à son mari, Abraham, qui n'a pas l'air d'assumer la situation. Une femme enceinte est maltraitée et envoyée sans ressources aucune errer dans le désert. Une décision irréfléchie, imprudente, plonge trois personnes dans une situation conflictuelle et pénible.
Je suppose que le récit ne s'arrête pas là. Que s'est-il passé par la suite ?
Dieu intervient en faveur de la servante Agar, qui a beaucoup souffert dans ces circonstances, et injustement. Elle s'est trouvée dans une position de faiblesse, et on l'a utilisée pour ensuite s'en débarrasser. Un ange apparaît auprès d'Agar pour lui dire « L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Quel encouragement pour ceux qui sont opprimés. Les victimes d'injustice sont si souvent oubliées par les puissants de ce monde. L'Éternel voit l'affliction de ceux qui souffrent. L'Éternel envoie Agar retourner chez son maître. Cela peut surprendre, mais peut-être Abraham, ayant réfléchi à la situation, va assumer ses responsabilités envers sa servante et son enfant et en prendra soin.
Et est-ce la fin de cette malheureuse situation ?
La Bible ne nous dit rien sur les 14 années suivantes. On peut supposer que la situation ne convenait pas trop à chacun, mais qu'il fallait s'y plier. L'une des leçons les plus importantes de ce récit est que souvent nous devons vivre avec les conséquences de nos décisions. Cette réalité doit nous faire réfléchir. En ce qui concerne Abraham, la situation explose de nouveau au moment où 14 ans plus tard, il a un fils de sa femme Saraï. C'est ce deuxième fils qui devait hériter de la promesse de Dieu. Et donc nous pouvons imaginer les jalousies et les conflits ressurgir à l'occasion de la naissance de cet héritier. La situation se détériore de nouveau. Agar est contrainte de quitter le foyer d'Abraham, cette fois-ci en compagnie de son fils. Une fois de plus, Dieu manifeste sa bienveillance envers cette femme. Il affirme qu'il prendra soin d'elle et de son enfant, même si cette fois-ci, elle ne retournera plus chez son maître.
Si Dieu a fait preuve de miséricorde et de compassion envers la servante Agar, comment a-t-il réagi envers Abraham ?
D'abord, il faut dire que Dieu n'a absolument pas approuvé la faute d'Abraham, ni sa conduite au cours de ces événements. Si dans les textes bibliques, Dieu ne prononce pas de punition contre Abraham, je vois quand même une attitude qui, me semble-t-il, se reproduit tout au long de la Bible.
Laquelle exactement ?
Je constate souvent que Dieu livre les hommes et les femmes aux mauvaises conséquences de leurs actes. Dans le cas d'Abraham, suite à son acte, il a rencontré beaucoup de conflits au sein de sa famille. Le message de cet incident est qu'il faut bien réfléchir avant d'agir, car nos décisions, nos choix sont porteurs de conséquences, en bien ou en mal, pour nos propres vies et pour celles de notre entourage.
Pourtant, nous avons vu dans une émission précédente que Dieu avait protégé Abraham lorsqu'il avait menti à Pharaon. Pourquoi ne le fait-il pas maintenant ?
Il est certain que Dieu peut limiter les dégâts causés par nos fautes. S'il le fait, c'est un acte de miséricorde. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il le fasse à chaque occasion où l'on s'écarte de sa volonté. Ce serait présomptueux, un abus de sa grâce. Si Dieu nous permet parfois de rencontrer des suites douloureuses lorsque nous lui désobéissons, c'est une façon de nous corriger. Dieu veut que nous comprenions, nos actes ont des conséquences et il faut les assumer. Toutefois, si Dieu a permis qu'Abraham passe par là, cela ne veut pas dire pour autant que Dieu l'ait abandonné. Dieu fait preuve d'un amour fidèle. Il demeure l'ami d'Abraham et il accomplira ses promesses, même celle d'accorder à Abraham un fils et un héritier par Saraï.
Et en ce qui nous concerne, quelle leçon faut-il retenir ?
Cela dépend. Si nous sommes des héritiers spirituels d'Abraham ou non, c'est-à-dire si nous avons la même foi qu'Abraham ou non.
Pouvez-vous expliquer davantage ?
Oui. Aujourd'hui, les héritiers spirituels d'Abraham sont ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et en ses promesses. Par la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix, nos péchés sont pardonnés. Par la foi en la résurrection de Jésus-Christ, nous avons cette espérance qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Si, malgré cette foi, il nous arrive de désobéir à Dieu, il peut y avoir des conséquences qui nous rendront peut-être la vie douloureuse ou pénible. Dieu désire ainsi nous corriger, nous faire apprendre qu'il vaut mieux suivre le chemin de l'obéissance et que la faute engendre souvent le malheur et la souffrance. Toutefois, Dieu demeure notre Père céleste. Il ne renonce pas à son amour fidèle. Il veille sur nous et il accomplira ses promesses de salut en nous conduisant jusqu'à la résurrection et la vie éternelle.
Et si quelqu'un n'a pas cette foi en Jésus-Christ, qu'en est-il pour lui ?
très clair. Non seulement nos fautes et nos mauvais comportements produisent des conséquences dures à vivre pendant notre vie terrestre, mais il y aura aussi des conséquences éternelles. Ceux qui n'ont pas la foi en Christ sont exclus des promesses de Dieu et seront exclus de la présence de Dieu consciemment pour toute l'éternité.
Ces pensées nous donnent à réfléchir très sérieusement. La décision d'accepter ou de refuser le don offert par Dieu est lourde de conséquences, car elle décide notre destin éternel. Mais comment Dieu peut-il nous offrir le pardon des péchés? Et comment peut-il s'abstenir de nous punir de nos fautes? Les versets trouvés dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21, et l'histoire qui va suivre, apporteront des éléments de réponse à ces questions.
Dieu a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors, maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes.
Dans un petit village isolé en pleine région montagneuse, les pluies manquent depuis bien des mois et les réserves en eau contenues dans les citernes communes baissent à vue d'œil. La situation devient tellement dramatique que le chef finit par réunir les villageois et il leur annonce qu'ils doivent désormais se rationner en eau. Personne ne devra puiser plus d'une jarre par jour. Mais le temps passe, et le chef se rend compte que malgré le rationnement, les réserves baissent toujours trop vite. Il se met à soupçonner que quelqu'un vient secrètement et puise plus que sa part. Il réunit alors de nouveau les villageois pour les appeler à la responsabilité et la solidarité. Chacun doit se limiter à sa part pour le bien de tous. Il annonce aussi que toute personne prise en train de voler de l'eau sera punie de 40 coups de fouet. Après quelques jours pourtant, le chef s'aperçoit que les réserves continuent toujours à baisser dangereusement. Mais cette fois-ci, à l'insu de tous, il place des hommes cachés près des citernes pour surveiller ce qui s'y passe et surprendre le coupable. Tôt le matin, l'un des gardes vient annoncer au chef qu'un homme a été pris sur le fait et qu'il est retenu prisonnier. Quand le chef demande au garde de qui il s'agit, ce dernier semble fort embarrassé. Alors le chef se met en colère et l'oblige à dévoiler le nom du coupable, pour apprendre, à son grand malheur, que l'homme en question n'est que son propre père, un homme maintenant âgé. Abattu et dans la confusion, le chef se retire dans sa chambre pour réfléchir à ce qu'il doit faire. Par amour et loyauté envers son père, il ne peut concevoir de lui infliger la peine prévue. Et pourtant, la justice qu'il avait lui-même prononcée exige que le coupable soit puni. Comment donc résoudre ce problème, ce conflit d'intérêts ? Quelques heures plus tard, un messager apporte une nouvelle aux villageois. Ils doivent se rassembler sur la place centrale où ils seront témoins de l'exécution de la peine. Le père est emmené, craintif et perdu devant la foule. Le bourreau l'attache à un poteau et s'apprête à donner le premier coup de fouet quand tout à coup, le chef du village l'interrompt. Il marche vers son père, enlève sa propre chemise et se met entre le bourreau et le coupable. Il couvre son père de son propre corps et dit au bourreau « Maintenant fouettez-moi, je vais prendre la peine qui devait tomber sur mon père. » Nous parlons de la réconciliation avec Dieu. Comment est-elle devenue possible ? Dieu aime les hommes et les femmes, mais sa justice exige que nos fautes soient punies. Sur la croix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par amour et pour accomplir la justice de son Père, a pris sur lui-même, tout comme ce chef de village, la peine qui devait tomber sur nous, et ainsi, tous les obstacles qui empêchaient notre réconciliation avec Dieu sont tombés. Comme dit les Écritures, le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché.
Dieu nous offre gratuitement son pardon. Nous n'avons pas à l'acheter, ni à le mériter. Nous devons simplement l'accepter comme un cadeau. Toutefois, ce pardon a été payé à un prix inestimable par celui qui nous l'offre. Il a coûté la mort du Seigneur Jésus, qui sur la croix a subi non seulement la violence et l'injustice des hommes, mais aussi la colère de Dieu à cause de chacune de nos fautes.
Le fruit de la croix, c'est la réconciliation, une relation renouée avec un Dieu bienveillant. Et nous ne pouvons que répéter l'exhortation de l'apôtre Paul, « Soyez réconciliés avec Dieu ». Merci encore pour votre compagnie. Au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.